Volume 6, Les œuvres de George Fox, Livre Doctrinosii, suite la guerre intérieure et spirituelle, et la fausse prétention à celle-ci, et une distinction entre la vraie liberté et la fausse. Et des bergers, laboureurs, pêcheurs et artisans faits prophètes et apôtres, pour prêcher la parole de Dieu et manifester sa gloire. Et comment Dieu a oint les ministres du Christ et de son Église, et ils ont l'onction en eux. Concernant la purification par le feu et l'eau, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et le fait de manger le pain céleste, afin que les gens grandissent par là et ne soient pas des nains. Et ceux qui, par ignorance, disent que le Christ réconcilie le diable, lui qui le détruit, lui et ses œuvres, et met à mort l'inimitié. Et comment le Fils de perdition a trahi le Christ au dehors, et depuis son ascension, trahit le Christ au dedans. Et concernant la prière par l'Esprit sans le livre, par George Fox. Il y a beaucoup de gens qui professent les paroles de l'apôtre concernant son combat intérieur et sa guerre, et pourtant ne reconnaissent pas l'Esprit que Dieu répand sur toute chair, ni ne croient que le Christ éclaire tout homme venant dans le monde par la lumière de vie, ni ne croient que la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, et qu'elle est suffisante pour les instruire et les conduire à leur salut, bien que Dieu ait dit à Paul que sa grâce lui suffisait lorsqu'il était dans ses troubles et ses tentations. Or vous tous qui parlez de la guerre intérieure de Paul et ne croyez pas en la lumière du Christ, vous ne pouvez pas voir sa guerre intérieure, car ce qui rend manifeste est lumière. Et la lumière du Christ qui brille dans le cœur donne la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, par qui il triomphe du diable et de ses œuvres, et il fait de plus que vainqueur. Car le Christ a dit, « Ceux qui croient en la lumière deviennent des enfants de lumière et sont nés de Dieu, et passent de la mort en Adam à la vie en Christ, en qui ils vainquent le monde. » Or vous qui ne croyez pas en la lumière, vous dites qu'il n'y a pas de victoire tant que l'on est de ce côté de la tombe. Vous n'êtes pas dans la guerre spirituelle, ni dans la vraie croyance qui vainque, ni dans la vraie foi qui est la victoire. Et comment pourriez-vous être dans la guerre spirituelle, lorsque vous ne venez pas à l'Esprit de Dieu, ni à l'Esprit de grâce, qui vous enseignerait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété et justice, ce que Dieu a dit être suffisant et qui vous apportera le salut. Mais si vous prétendez à une guerre sans la lumière du Christ, et sans sa foi et l'Esprit de grâce, qui apporte le salut, qui triomphe, et qui est la victoire, alors vous pouvez faire la guerre toute votre vie jusqu'à descendre dans la tombe dans vos propres volontés sans vaincre ni obtenir la victoire. Et c'est la guerre, le combat de l'aveugle sans la lumière du Christ, sans la foi qui est la victoire, et sans l'Esprit de grâce, qui apporte le salut à tous les croyants en Christ. Et Joël a dit, « Dans les derniers jours, Dieu répandra de son Esprit sur toute chair. » Et les apôtres montrèrent l'accomplissement de la prophétie de Joël, dans Actes 2, 16-18, lorsqu'il prêchait le Christ dans son Nouveau Testament et sa nouvelle alliance aux Juifs, comment la parole de Joël s'était accomplie, comment Dieu répandrait de son Esprit sur toute chair, et ses fils et ses filles prophétiseraient, et ses servantes et ses serviteurs prophétiseraient, et auraient des visions, et les vieillards auraient des songes. Or ceci était le fruit de l'Esprit de Dieu dans les fils et les filles, les servantes et les serviteurs, et les vieillards, avoir leurs visions spirituelles, leurs songes et leurs prophéties. Et maintenant, quelle est la cause que les fils, les filles, les servantes, les serviteurs et les vieillards n'aient pas aujourd'hui des prophéties, des visions et des songes dans la chrétienté, comme ils en avaient au jour des apôtres? N'est-ce pas parce qu'ils se sont égarés loin de l'Esprit que Dieu répand sur eux, et n'ont donc pas les songes, visions et prophéties spirituelles? Et tous ceux qui se sont égarés loin de l'Esprit que Dieu répand sur ne peuvent pas servir et adorer Dieu dans l'Esprit, ni avoir l'unité les uns avec les autres, ni la communion dans l'Esprit. Et c'est la cause pour laquelle tant de gens dans la chrétienté sont amassés les uns contre les autres, s'étant égarés loin de l'Esprit de Dieu, et donc de l'union et de la communion spirituelle. Or le moyen par lequel tous les hommes peuvent en venir à servir et adorer Dieu dans l'Esprit, à entrer en fraternité et en communion dans l'Esprit, et à parvenir aux songes, visions et prophéties spirituelles, c'est de venir à l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur, qu'il répand sur eux jeunes et vieux, filles et filles, serviteurs et servants, afin que d'entrer avec la manifestation de l'Esprit, filles, serviteurs, jeunes hommes et vieillards profitent de leur vision céleste, de leurs songes et de leurs prophéties, et qu'ainsi tous boivent d'un seul esprit. C'est dans ce même esprit que vous servirez et adorerez tous le Dieu éternel, infini et sempiternel qui vous a fait, dans sa nouvelle alliance et son Nouveau Testament. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, Jer 31-31-32. Vous pouvez voir que la nouvelle alliance n'est pas selon l'ancienne, avec leurs prêtres dont les lèvres devaient conserver la connaissance du peuple, et qui circoncisaient extérieurement les mâles. Ils avaient leur Jérusalem extérieure et leur culte extérieur du temple, et leur loi extérieure leur était donnée sur des tables de pierre, et le prêtre avait une chaire pour la lire. Et il avait ses dîmes et présentait des offrandes et des sacrifices, et ils avaient leurs jours saints et jours de sabbat et leurs sacrifices extérieurs et leurs autels extérieurs. Hébreux 8, et l'ancienne alliance leur commandait de prêter serment et de jurer, mais dans la nouvelle alliance, le Christ a dit, « Ne jurez point du tout, Et dans l'ancienne alliance, les prêtres percevaient les dîmes, mais dans la nouvelle alliance, le Christ a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et dans l'ancienne alliance, il se tenait debout pour bénir les obéissants et maudire les désobéissants, mais dans la nouvelle alliance, il est dit, « Bénissez et ne maudissez pas. » Dans l'ancienne alliance, ils devaient aimer leurs voisins et haïr leurs ennemis, mais dans la nouvelle alliance, il est dit, « Aimez vos ennemis. » Ici, vous pouvez voir la nouvelle alliance. Dieu ne l'a pas faite selon l'ancienne, et nous sommes au jour de la nouvelle alliance et du Nouveau Testament. L'apôtre exhortait les chrétiens à regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi, car il a dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreux 12:2-13-8. Or Jésus-Christ est le rocher des siècles et le fondement de nombreuses générations. Ainsi, à chaque âge et en chaque génération, tous les vrais chrétiens, à jamais, doivent regarder à Jésus, qui est l'auteur et le commencement, et le consommateur de leur foi. Et maintenant, il est ici évident que les apôtres et les disciples de Jésus-Christ, dans tous leurs conciles et réunions, n'ont pas fabriqué des confessions de foi pour les vrais chrétiens des premiers temps primitifs, mais leur ont dit de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Et tous les vrais chrétiens doivent observer l'enseignement et l'exhortation des apôtres, en tout âge et en toute génération, à jamais. Car Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu, et ont ainsi perdu l'image de Dieu en justice et en sainteté, et ainsi ont abandonné l'enseignement de Dieu et la liberté dans laquelle Dieu les avait placés, et ont suivi l'enseignement du serpent, qui les a conduits dans une fausse liberté, qui a apporté la mort, la corruption et la destruction. Dieu donna aux Juifs sa loi juste, équitable, sainte et bonne, et leur donna son bon esprit pour les instruire. Mais ils se révoltèrent contre son esprit, se détournèrent de Dieu et de sa loi, et furent conduits par le mauvais esprit, le serpent, dans une fausse liberté, qui mena beaucoup d'entre eux en captivité, à la mort et à la destruction. Et Dieu répandant de son esprit sur toute chair dans son Nouveau Testament et sa Nouvelle Alliance, par lequel esprit tous peuvent connaître Dieu et le Christ, mais tous les chrétiens qui se sont écartés de l'esprit se sont écartés de l'unité, de la communion et du vrai culte, pour tomber dans la confusion et dans une fausse liberté selon la chair. Car l'Esprit que Dieu répand sur toute l'humanité est l'unique moyen de conduire tous à l'unité et de servir et adorer Dieu en esprit et en vérité, s'ils y croient et lui obéissent, et le Christ est clair. Mais ceux qui haïssent la vraie lumière, qui est la vie en Christ, et aiment les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, ne veulent pas venir à elle parce qu'elle les reprendra. Cette lumière les condamne, eux et leurs mauvaises œuvres, dans leurs ténèbres et leurs fausses libertés, et leurs faux cultes, puisqu'ils ne veulent ni recevoir ni écouter les répréhensions de la lumière du Christ, ni se tourner et avoir la vie en lui, ils sont donc condamnés par la vraie lumière du Christ. Et le Christ dit à ses disciples d'aller prêcher l'Évangile, c'est-à-dire de vie et de salut, à ou dans toute créature sous le ciel. Or l'Évangile, dit l'apôtre, est la puissance de Dieu pour le salut pour quiconque croit. Ainsi donc, quiconque ne croit pas et ne reçoit pas son Évangile, et ceux qui le reçoivent puis lui désobéissent, tout cela entre dans, et sont dans, une fausse liberté de mort et de destruction, loin de la vie, du salut et de la paix avec Dieu, et sur cela vient le jugement de Dieu selon l'Évangile. Et la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Et si tous les hommes ne reçoivent pas cet esprit de grâce et ne marchent pas en lui, lui qui leur enseignera à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement et pieusement, et leur apportera le salut, et les mettra en faveur auprès de Dieu, mais qu'ils changent la grâce de Dieu en débauche et marchent avec mépris contre l'esprit de grâce, cela sort de la faveur de Dieu et s'éloigne de la grâce suffisante pour les instruire et leur apporter le salut. Mais tous ceux qui marchent dans la lumière, et dans l'esprit de grâce, et dans l'Évangile, et lui obéissent, ceux-là connaissent leur vraie liberté dans l'esprit, dans l'Évangile et en Jésus-Christ, et tiennent ferme dans cette liberté dans laquelle le Christ les a affranchis du joug de l'esclavage, du diable et du monde qui gît dans la méchanceté. Et que le Seigneur préserve tout son peuple en Jésus-Christ, en qui se trouve la vraie liberté, en qui ils ont la vie et la paix avec Dieu. Amen. George Fox ici. Vous pouvez voir comment plusieurs des prophètes et des apôtres étaient bergers, laboureurs et artisans, qui prêchaient la parole de Dieu et manifestaient sa gloire, et furent méprisés et persécutés par le monde et par les ministres de la lettre sans vie. Le juste Abel gardait des brebis, ou était berger, et par la foi Abraham séjourna dans le pays de la promesse comme dans un pays étranger, et demeura sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11:9-10. Ainsi, ceux-ci ne bâtissaient pas de grandes villes extérieures, mais gardaient de grands troupeaux de bétail et demeuraient sous des tentes, et Abraham était le père des fidèles, et c'est en Isaac que la descendance fut appelée, car il était la descendance de la promesse. Gènes 21:12. Et à Jacob, Ésaü vendit son potage. Gènes 25:19-30-31. Et Jacob, la seconde naissance, était un gardien de brebis, car il garda les brebis de Laban, son beau-père, 20 ans. Gènes 31-41. Et Rachel gardait les brebis de son père Laban et les abreuvait, et Jacob aida Rachel à les abreuver et roula la pierre. Ainsi ces deux-là, Jacob et Rachel, s'épousèrent, et Jacob, la seconde naissance, roula la pierre afin que les brebis puissent boire. De même que la première naissance incirconcise bouche le puits, mais la bonne nature les ouvre, et cela naturellement, et la nature divine le fait divinement. Quand Moïse eut 40 ans accomplis, il s'enfuit de Pharaon dans le pays de Madian, auprès de Jéthro. Et Jéthro avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. Et Moïse était assis près du puits, et les bergers vinrent et les chassèrent, mais Moïse se leva et les aida et abreuva leurs troupeaux. Et Jéthro envoya chercher Moïse, et il alla vers lui, et épousa Séphora, la fille de Jéthro, et garda ses brebis. Et quand 40 ans furent écoulés, le Seigneur apparut à Moïse dans le désert du mont Sinaï et de Horeb, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Actes 7, 23-30, Exode 3-2. Ainsi Moïse garda des brebis 40 ans, car il avait 40 ans lorsqu'il sortit d'Égypte et s'enfuit de Pharaon. Et il avait 80 ans lorsqu'il quitta Jéthro, son beau-père, et lorsqu'il vint en Égypte parler à Pharaon, pour laisser sortir d'Égypte les enfants d'Israël afin d'adorer et de servir le Seigneur. Moïse passa 40 ans à garder le troupeau du Seigneur, son peuple, les enfants d'Israël dans le désert. Et il fut le berger de Jéthro pendant 40 ans, gardant et abreuvant les brebis de son beau-père, et 40 ans le berger du Seigneur, gardant son peuple et l'abreuvant comme auparavant. Et David était berger, et gardait les brebis de son père dans le désert. Et le Seigneur l'appela, le retirant de la garde et de la nourriture des brebis extérieures, afin de paître son peuple, les enfants d'Israël. 2 Sam 7-8. Et ainsi dit le Seigneur des armées. Je t'ai pris des parcs à brebis, d'auprès des brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. Et comme le Seigneur appela Jacob de la garde des brebis de Laban, ainsi le Seigneur appela Moïse de la garde des brebis de Jéthro, afin de paître et de garder ses brebis, et son peuple. Élisée était laboureur, et tandis qu'il labourait avec ses serviteurs et ses 12 paires de bœufs, il les abandonna et obéit au Seigneur quand celui-ci l'appela pour être son laboureur spirituel, afin de labourer la terre en friche de leur cœur. 1 Kings 19-19. Et à maudit, j'étais bouvier et cueilleur de fruits de sycomore ou de figues sauvages, et le Seigneur me prit tandis que je suivais le troupeau, et le Seigneur me dit, va prophétise à mon peuple Israël. Amos 7, 14-15, et les paroles d'Amo, qui était parmi les bergers de Tekoa, qu'il vit au sujet d'Israël, étaient, le Seigneur rugira de Sion et fera retentir sa voix de Jérusalem, et les demeures des bergers seront dans le deuil. Amos 1, 1-2. Et vous pouvez lire le livre d'Amo et voir comment le Seigneur lui fit déclarer de nombreuses et terribles prophéties, non seulement aux Juifs, mais aussi à d'autres pays et nations. Ainsi le Seigneur fit de lui son gardien de troupeau, pour recueillir son fruit et veiller sur son peuple. Et comme Jésus marchait au bord de la mer de Galilée, il vit Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs, et il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes », et aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Et allant de là plus loin, il vit Jacques et Jean, deux fils de Zébédée, dans une barque avec leur père, réparant leurs filets. Et Jésus les appela, et ils laissèrent immédiatement leur barque et leur père avec les ouvriers qu'il avait à gage, et suivirent Jésus. Matthieu 4, 18-22, Marc 1, 16-20. Et le Christ fit de des pêcheurs d'hommes, et ils les pêchèrent hors de la grande mer, le monde, et parfois ils tirèrent de la mer du monde quelques milliers à la fois. Comme vous pouvez le voir, environ 3000 furent convertis en une seule fois, dans Actes 2, 41. Bien que les Juifs, les prêtres, les chefs et les anciens s'efforçassent de toute leur force et de toute leur puissance de retenir les hommes dans leur mer, pourtant le nombre de ceux qui crurent et entendirent la parole était d'environ 5000 hommes. Actes 4, 1-5. Et le Christ a dit, « Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse de toute espèce, lequel, lorsqu'il fut plein, ils le tirèrent sur le rivage, et s'assirent, et mirent les bons dans des vases, mais jetèrent les mauvais dehors. » Matt 13, 47-48. Et ne lisez-vous pas au sujet de Simon le magicien, Actes 8, 10-23, et d'Ananias et Saphira, Actes 5, 1, et de Nicolas astérisque, Actes 6, 5, et n'ont-ils pas été tirés hors de la mer puis ensuite rejetés? Mais quelle œuvre glorieuse ils accomplirent, puisque le Christ fit des pêcheurs d'hommes et leur donna un filet qui tenait bon et n'avait jamais besoin d'être raccommodé sa puissance. Car ils devaient prêcher l'Évangile à toutes les nations et à toute créature. Ainsi leur filet, la puissance de Dieu, s'étendait sur la mer, le monde entier, pour rassembler les bons et rejeter les mauvais. Astérisque à l'époque de Fox, On connaissait manifestement plus de choses sur Nicolas que ce qui se trouve et se trouvait dans Actes 6-5. Aujourd'hui, on spécule que Nicolas a ensuite mené un schisme qui niait au départ le corps, mais a évolué vers la négation de toute importance du corps, autorisant la satisfaction de la chair, ce qui devint les Nicolaïtes dont Jésus a dit qu'il haïssait les pratiques dans l'Apocalypse. L'apôtre Paul rencontra Aquilas et Priscille à Corinthe, et comme Paul était du même métier, il demeura chez eux et travailla, car leur occupation était de fabriquer des tentes. Actes 18-1-3. Mais Paul n'a-t-il pas conduit beaucoup de gens à la grâce et à la vérité, à la puissance et à l'Esprit de Dieu dans leur cœur, les détournant des ténèbres vers la lumière de l'Évangile du Christ et de la puissance de Satan vers Dieu, et les amenant ainsi à la tente et au pavillon intérieur où demeurent la grâce, la vérité, l'Esprit et la lumière du Christ, par lesquels ils le reçoivent pour régner dans leur cœur par la foi. Et les Juifs dirent du Christ, d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles, n'est-ce pas le fils du charpentier, et sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques et Joseph, Simon et Judas, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous, d'où donc cet homme tient-il toutes ces choses, Matthieu 13-54-56. Et encore les Juifs dirent, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Joseph, de Judas et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et les Juifs étaient offensés à cause de Jésus-Christ. Marc 6-2-3. Et les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment cet homme connaît-il les lettres, n'ayant jamais étudié ?» Et Jésus leur dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » John 7-15-16. Ici, vous pouvez voir que les Juifs professant appelèrent le Christ le charpentier et le fils du charpentier. Mais le Christ rebâtit l'état déchu d'Adam et Ève, qui étaient tombés loin de la justice et de la sainteté, l'image de Dieu dans laquelle il les avait faits. Le Christ les renouvelle à nouveau dans l'image de Dieu, en justice et en sainteté, et ainsi ils sont édifiés comme une maison spirituelle, et le Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Et ainsi il rebâtira les ruines anciennes, tu relèveras les fondements de nombreuses générations, et l'on t'appellera le réparateur de la brèche, le restaurateur des sentiers pour y habiter. Isaïe 58-12. Moïse a dit, « Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, vos vêtements ne se sont point usés sur vous, et vos chaussures ne se sont point usées à vos pieds. » 2:29-5. Et il fut dit à la tribu d'Azé, « Tes chaussures seront de fer et d'airain, et selon tes jours, telle sera ta force. » 2:33-25. Or telle était la condition des enfants dans le désert, dans l'ancienne alliance et l'ancien testament, leurs vêtements et leurs chaussures extérieures ne vieillissaient pas. Et ici, vous pouvez voir que Moïse conduisit le troupeau de Dieu, son peuple, pendant 40 ans. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament, tous les enfants de lumière ont la lumière de vie et marchent en elle, et sont conduits par le Christ. Leurs pieds sont chaussés du zèle que donne l'Évangile de paix, et cet Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit. F6 15 Romains 16. Et ils sont chaussés de l'Évangile, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne vieillit jamais, alors que se chausser d'airain, de fer ou de cuir, cela vieillit et s'use, et être revêtu de fin lin, la justice du Christ, cet habit ne vieillira jamais. Ainsi je dis que beaucoup ont été chaussés de l'Évangile, la puissance de Dieu, en cet âge, et leurs pieds n'ont pas glissé, mais ils ont franchi les rochers par un temps mauvais et orageux, étant chaussés de ce qui demeure par tous les temps et dans tous les lieux rudes et épineux, car l'Évangile est au-dessus de tout, et ceux qui en sont chaussés tiennent ferme. Ici vous pouvez voir quels hommes ils étaient aux yeux du monde, eux qui exaltaient la gloire du Seigneur et répandaient au loin son nom et sa vérité, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples dans les Écritures. Dans le temple du Seigneur, chacun parle de sa gloire. Psaume 29:9. C'est pourquoi demeurez dans le temple, sachant que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Par la foi, Noé, averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, saisi de crainte, construisit une arche pour sauver sa maison. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et Noé n'était-il pas un cultivateur? George Fox ici, vous pouvez voir que tout devait être purifié par le feu et l'eau avant d'entrer dans le camp de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et tous doivent être purifiés par le baptême du Saint-Esprit et par le feu, et par la circoncision de l'Esprit, et lavés par l'eau de la parole et rendus purs avant d'entrer dans le royaume de notre Dieu et dans la Jérusalem céleste. Les Juifs dans l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, lorsqu'ils allaient à la guerre, avaient Dieu cette ordonnance et cette loi. Tout ce qu'ils prenaient dans les guerres, que ce soit de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, de l'étain ou du plomb qui pouvait supporter le feu, ils devaient le faire passer par le feu, puis le purifier avec l'eau de séparation. Et tout ce qui ne supportait pas le feu, ils devaient le faire passer par l'eau. Et ils devaient purifier tous les vêtements, tout ce qui était fait de peau, tous les ouvrages en poils de chèvre, et tout ce qui est. Ainsi vous pouvez voir que toute chose devait être purifiée par le feu et l'eau, et ce qui ne pouvait supporter le feu devait passer par l'eau. Et ils devaient laver leurs propres vêtements et se purifier 7 jours. la perfection des jours devait s'écouler sur eux avant qu'ils n'entrent dans le camp. Et ils devaient purifier les captifs qu'ils avaient faits prisonniers avant de les amener dans le camp, de sorte que rien n'entrait dans le camp du Seigneur sinon ce qui était pur, purifié par le feu ou par l'eau. Et les guerriers devaient se purifier avant d'entrer dans le camp du Seigneur, comme vous pouvez le voir dans Nombre 31, 21-24. Et le Christ, dans son Nouveau Testament, a dit que tous doivent naître de nouveau de l'Esprit, avant de pouvoir voir le royaume de Dieu ou y entrer, comme dans John 3, 5. Et le Christ, lui, baptise du Saint-Esprit et de feu, il a son van à la main, et il nettoiera parfaitement son air, et amassera son blé dans ses greniers, mais il brûlera la paille dans un feu inextinguible, comme dans Matt 3, 11-12. Ici, vous pouvez voir que la paille n'entre pas dans le grenier de Dieu, mais doit être brûlée, et rien d'impur n'entre dans le royaume de Dieu, comme vous pouvez le voir dans la Révélation. Et bien que les portes de la Jérusalem céleste ne soient jamais fermées de jour, car il n'y a pas de nuit là, il n'y entrera en aucune manière rien de souillé, ni personne qui commette l'abomination ou le mensonge. Rêve 21, 27, 22, 14, 15. Ainsi, ici vous pouvez voir que tous doivent être purifiés par l'Esprit et par le feu céleste, et lavés par l'eau de la parole avant d'entrer dans la cité de la nouvelle Jérusalem céleste, ou dans le royaume de Dieu, et de marcher dans la lumière. Et ils doivent passer par le baptême de feu et du Saint-Esprit, et par le lavage de l'eau de la parole, avant d'entrer dans la Jérusalem céleste et le royaume de Dieu, comme auparavant. Et ceux qui sont mariés à l'agneau, qui sont son épouse, son église, seront vêtus de fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Et les armées qui étaient dans le ciel et suivaient le Christ sur des chevaux blancs, étaient vêtues de fin lin, blanc et pur. Rêve 19, 7-9-14. Ainsi comme il a été dit plus haut, tous doivent être lavés purs, purifiés, circoncis par l'Esprit, et baptisés du Saint-Esprit et de feu, avant d'entrer dans la Jérusalem céleste et le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, « Un nain ne s'approchera pas pour offrir les offrandes du Seigneur faites par le feu, il pouvait manger le pain de son Dieu, comme dans Lève 21. » C'est pourquoi, vous qui professez le Nouveau Testament, croissez dans la vérité et nourrissez-vous du pain venu du ciel. Prenez garde de ne pas être des nains, mais vivez et marchez dans l'Esprit de Dieu, afin d'être gardés par l'Esprit sans tache, et afin de croître en grâce et en foi, afin d'être une sacrificature royale pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ comme dans 1 Pé 2:5-9, et afin de ne pas être des nains, mais de manger du pain céleste et de croître pour pouvoir offrir le sacrifice spirituel comme ci-dessus. Concernant les ministres du Christ et de son Église, et leur témoignage. Comment Dieu a oint les ministres du Christ et son Église, et ils ont l'onction en eux. Or celui qui a fermé les ministres du Christ et son Église en Christ, et les a oints, c'est Dieu. Ici vous pouvez voir que Dieu a oint les ministres du Christ. Et l'apôtre a dit, « Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de son esprit. » Ici vous pouvez voir que Dieu scelle son peuple, ses ministres et son Église, et qu'il leur donne les arts de son esprit dans leur cœur, et qu'il les oint et les a fermés en Jésus-Christ. 2 Cor 1, 21-22. Or au sujet du Fils de Dieu, le Seigneur a dit, « Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. » C'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tes compagnons. Hébreux 9. Ici, vous pouvez voir que les ministres du Christ et son Église sont oints, et qu'ils ont l'onction qui demeure en eux, et ils n'ont besoin que personne les enseigne, mais l'onction elle-même les enseigne toutes choses. 1 John 2, 27-20. Mais Dieu a oint le Christ d'une huile d'allégresse au-dessus de ses compagnons, lui qui conduit beaucoup de fils à la gloire, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi le Christ n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 10-11. Et le Christ fait ses ministres capables de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Cor 3, 6. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Ici, vous pouvez voir ce que sèment les ministres du Christ et ce qu'ils moissonnent, car lorsque le Christ est monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Et celui qui est descendu est le même qui est aussi monté bien au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces dons du Christ étaient et sont pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et c'était l'œuvre du ministère du Christ, et ainsi il les conduisait dans l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés enfants à une seule espérance de votre vocation, et cette espérance est Christ en vous, l'espérance de la gloire que prêchent les ministres du Christ, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait dans Jésus-Christ. F4:8-14, Col. 1:27-28. Et les ministres du Christ conduisirent l'Église du Christ à un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. Et l'apôtre a dit, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Remarquez, les ministres du Christ ont reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier les gens avec Dieu par le Christ. Et maintenant, que tous les ministres du Christ considèrent combien ils ont amené à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, et combien ils ont présenté parfait en Jésus-Christ, et avec le don du ministère de la réconciliation, combien ils ont réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre a dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses, et encore le Christ, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui réconcilier toutes choses avec lui-même, par le Christ dis-je soit les choses sur la terre, soit celles dans les cieux, et il a mis en nous, ou nous a confié, la parole de la réconciliation. Ainsi donc, nous, ministres du Christ, sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Cor 5:17-21, Col. 1:20. Ici, vous pouvez voir que les ministres du Christ ont reçu la parole de la réconciliation pour la confier, afin de réconcilier les gens avec Dieu et le Christ. Car l'apôtre dit à l'Église du Christ aux Colossiens, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées à cause de vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Col. 1:21. Que tous les ministres du Christ considèrent donc combien ils ont réconcilié avec Dieu par la parole de la réconciliation. Et l'apôtre a dit à l'Église du Christ, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est du cœur qu'on croit pour parvenir à la justice, et c'est de la bouche qu'on fait confession pour le salut. » Rom. 10:8-10. Et encore l'apôtre a dit, « C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé le Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse des êtres dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippe 2:9-11. Ici vous pouvez voir que tous doivent être soumis à la puissance du Christ, et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien qu'ils ne soient pas ministres et apôtres, ils sont pourtant des confesseurs car c'est du cœur que l'homme croit pour parvenir à la justice, et c'est de la bouche que la confession est faite pour le salut. Et la parole de la foi étant dans leur bouche et dans leur cœur, ils peuvent croire du cœur et confesser de la bouche. Et c'est cette parole, s'ils veulent l'entendre et lui obéir, qui les réconciliera avec Dieu. Or, mes amis, si le Seigneur vous a jugé fidèle et vous a établi dans son ministère, cherchez à l'accomplir et à le remplir, et ne négligez pas le don qui vous a été donné. Et soyez de bons exemples pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Et soyez toujours prêts à prêcher la parole, insister en toute occasion favorable ou non. Celui qui observe le vent ou les tempêtes ne sèmera pas la semence, et celui qui regarde aux nuages ne moissonnera pas. Éclat 11:4. Mais la parole du Seigneur doit être prêchée à temps et à contre-temps, comme dans 2 Tim 4:2. Et l'apôtre dit à Timothée, « Je te rappelle d'exciter le don de Dieu qui est en toi. » 2 Tim 1:6. Ce dont il est en effet bien besoin maintenant, pour rappeler beaucoup et exciter le don de Dieu en eux, et combattre le bon combat de la foi, et saisir la vie éternelle à laquelle ils sont appelés. Et poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour et la douceur. Et l'apôtre dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans chaque ville, disant que des liens et des afflictions l'attendaient et demeuraient sur lui, mais rien de tout cela ne l'ébranlait, il ne tenait pas non plus sa vie pour précieux à ses propres yeux, afin qu'il pût achever sa course avec joie, ainsi que le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ, pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Actes 20:23-24. Vous pouvez voir que l'apôtre avait reçu son ministère du Seigneur Jésus-Christ et quelle résolution il avait en lui de l'achever, bien que des liens et des afflictions l'attendissent. Il ne se souciait pas des tempêtes et des vents de la persécution, et il exhortait les autres à prendre garde au ministère qu'ils avaient reçu du Seigneur afin de l'accomplir, et il exhortait tous à ce que leurs paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin qu'ils sachent comment répondre à chacun, se recommandant à la conscience de tout homme devant Dieu. Et Pierre dit dans son épître générale à l'Église du Christ, « Comme chacun a reçu un don, qu'il le mette au service des autres, comme de bons intendants des grâces diverses de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu, Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 10, 11. Ainsi, vous pouvez voir ici que le ministère n'est pas limité à une seule sorte de personne, ni à une tribu. Mais comme chacun a reçu le don, qu'il le mette au service des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. Ainsi ce don, ils le reçoivent de Dieu, et ils sont intendants de la grâce multiforme de Dieu. Et si quelqu'un parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu, donc pas les oracles des hommes. Et si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse selon la capacité que Dieu lui donne. Ainsi, ce n'est pas selon la capacité que des hommes leur donnent qu'ils exercent le ministère, mais selon ce que Dieu donne. Ainsi, c'est pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre dit, « Dieu a départi à chacun une mesure de foi. » Et celui qui exerce le ministère devait s'attacher à son ministère, celui qui exhorte, à son exhortation, celui qui enseigne, à l'enseignement, celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside avec diligence, celui qui fait miséricorde avec joie. Ainsi cette œuvre et cette pratique viennent de la grâce et de la foi du Christ dans leur cœur. Romains 12, 3, 9. Et l'apôtre exhorte à ne donner aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère, à savoir celui du Christ, ne soit pas blâmé. Maintenant, vous voyez quel soin l'apôtre avait de garder toute chose irréprochable, afin que Dieu soit glorifié, disant, « Mais en toute chose, nous recommandons comme ministres de Dieu, par une grande patience dans les afflictions, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les emprisonnements, dans les tumultes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par le Saint-Esprit, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance. » 2 Corinthiens 6, 4, 11. Ici, vous pouvez voir comment les ministres de Dieu et du Christ font leur preuve. Et l'apôtre exhorte les ministres et l'Église du Christ à revêtir les armes de la lumière, Romains 13, 12. Ici, vous pouvez voir que la lumière est l'armure contre les ténèbres et leurs œuvres. Et encore, l'apôtre écrit à l'Église du Christ et aux ministres, et dit, « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations des ténèbres de ce monde, contre les esprits de méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez vos reins ceints de vérité, revêtez la cuirasse de la justice, et ayez vos pieds chaussés du zèle que donne l'Évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 11-17. Ici, vous pouvez voir les armes et l'armure céleste et spirituelle que les ministres du Christ et son Église doivent revêtir et qui sont capables de les défendre et de les préserver contre le diable et tous ses ignobles instruments. Car le peuple de Dieu a éprouvé et mis à l'essai ses armes et cette armure céleste, et par elles il a été préservé ferme et intrépide, vaillant pour le Christ Jésus pour le nom, et pour la vérité de Dieu sur la terre, et par elles il a pu tenir tête aux méchants, le vaincre, et remporter sur lui la victoire. Et mon désir est que tous les ministres de Dieu et son Église soient armés de ces armes et de cette armure céleste, en ce temps et dans cette génération. Alors ils ne craindront ni le diable, ni tous ses traits, ni les accusations mensongères, ni les calomnies, ni les faux bruits, mais revêtus des armes et de l'armure spirituelle de Dieu, ils se tiendront comme de vaillants soldats dans le Christ, au-dessus de lui et de tout cela. Amen, que tous aient de l'huile dans leur propre lampe, et de l'eau dans leur propre puits, et du fruit sur leur propre arbre, et qu'ils s'occupent de leur propre vigne, et fassent valoir leur propre talent, et ne le cachent pas dans un linge, comme le serviteur paresseux, et que nul ne mette sa chandelle sous un lit ou sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin qu'elle éclaire. Ainsi que votre lumière céleste brille de telle sorte que les hommes voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque le Christ envoya ses disciples, il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans besace et sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et les disciples répondirent et dirent qu'ils n'avaient manqué de rien. L'apôtre dit, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. » 1 Thessaloniciens 5, 8. Ici, vous pouvez voir que les disciples du Christ, qui avaient reçu gratuitement, donnaient gratuitement, et n'ont manqué de rien. Et vous qui êtes du jour du Christ, armez-vous de cette cuirasse de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance et du salut. David dit, « Mon cœur n'est pas hautain, et mes yeux ne sont pas arrogants, je ne m'engage pas dans de grandes choses, ni dans des choses trop élevées pour moi. » Psaume 131, 1. Et l'apôtre dit, « Je m'efforce d'avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Actes 24, 16. Et l'apôtre écrit à Timothée de s'exercer à la piété, car l'exercice corporel est peu utile, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. 1 Timothée 4, 7-8. Et l'apôtre dit, « La nourriture solide est pour les hommes faits accomplis, parfaits pour ceux dont les sens, exercés par l'usage, sont capables de discerner le bien et le mal. » Hébreux 5, 14. Dieu châtie son peuple pour son profit, afin qu'il participe à sa sainteté. Or, aucun châtiment ne paraît pour le présent être un sujet de joie, mais plutôt de tristesse. Cependant, plus tard, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par lui. Hébreux 12, 10, 11. Maintenant, ici, les ministres du Christ et son Église doivent connaître ces divers types d'exercices, tant envers Dieu qu'envers les hommes, et pour la piété, ainsi que le discernement du bien et du mal, et cet exercice doit se faire dans l'esprit et la puissance de Dieu, qui maintient l'esprit des gens abaissés et dans l'humilité. Et cela doit être un exercice spirituel, car l'exercice corporel profite peu, ou pour peu de temps, qui passe, mais la piété est utile à toute chose, et ceux qui sont exercés dans cette piété ont la promesse de la vie présente et de celle à venir, qui est la vie éternelle, et que Dieu préserve tout son peuple dans cet exercice. Amen. Et Paul dit au roi Agrippa, lorsqu'il fut amené devant lui, qu'il avait été envoyé pour ouvrir les yeux des gens, pour leur ouvrir les yeux et les détourner des ténèbres vers la lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. C'est pourquoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, mais j'ai annoncé d'abord à ceux de Damas, puis à Jérusalem, puis dans tout le pays de Judée, et ensuite aux païens, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, et faire des œuvres dignes de la repentance. Actes 26, 18-20. Ainsi vous pouvez voir ici que ce n'est pas une chose nouvelle pour les ministres du Christ de tourner les gens des ténèbres vers la lumière, et de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Au sujet de ceux qui, par ignorance, disent que le Christ réconcilie le serpent Satan, le diable, et l'inimitié, car le Christ vient pour détruire le diable et tuer l'inimitié. L'apôtre dit que toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et qu'ayant fait la paix par le sang de sa croix, il a par lui réconcilié toutes choses avec lui-même par Christ, dis-je, quelles soient les choses dans les cieux ou les choses sur la terre, et qu'il a voulu réconcilier par la croix les Juifs et les païens avec Dieu en un seul corps, ayant ainsi, ou en lui-même, mis à mort l'inimitié. Or certains ont dit, tant déranté que d'autres, que le Christ réconcilie le serpent, Satan, le diable et l'inimitié, ce qu'ils disent par ignorance à partir de ces écritures mentionnées précédemment, car ils disent, ces choses qui souillent un homme, qui sortent d'un homme, ne sont-elles pas les choses mauvaises ? Et bien qu'elles soient appelées choses, pourtant ces choses mauvaises n'étaient pas en Adam lorsque Dieu le fit, ni aussi longtemps qu'il demeura sous l'enseignement de Dieu, mais lorsqu'il abandonna Dieu, et lui désobéit et suivit le serpent, qui enseigna à Adam et Ève sa transgression et son péché, cela fit entrer dans son cœur toutes les choses mauvaises qui sortent du cœur, mauvaises pensées, meurtres, adultères, fornications, vols, faux témoignages, blasphèmes, le péché, la mort et le diable, la puissance de la mort. Et ainsi ces choses mauvaises souillent l'homme et la femme, procédant de lui, comme le dit le Christ. Et le Christ a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et lui qui, par la mort, détruit la mort, et le diable destructeur, qui est la puissance de la mort, et qui écrase la tête du serpent, et met à mort l'inimitié, et fait la paix, et ainsi il détruit les choses et les œuvres du diable, de Satan, du serpent et de l'inimitié. Et ainsi il est clair que le Christ ne réconcilie pas les choses et les œuvres du diable, ni le diable, Satan, le serpent et l'inimitié, mais il écrase la tête du serpent, détruit le diable, ses œuvres et ses choses, et met à mort l'inimitié, comme dit plus haut, et le Christ réconcilie toutes choses sur la terre et dans les cieux, qui sont les œuvres de Dieu qu'il a faites. Et le Christ sanctifie l'homme, qui a été souillé par le diable, et par ses choses et ses œuvres mauvaises, et le vieil homme doit être dépouillé avec ses œuvres, et l'homme nouveau revêtu qui est selon Dieu. Ainsi le vieil homme, ses œuvres, les choses mauvaises, et les membres qui sont en bas, doivent être mortifiés ou mis à mort. Ainsi, le Christ ne réconcilie pas avec Dieu le vieil homme et ses œuvres, ni les choses mauvaises et les membres qui sont en bas, ni le corps de mort, ni la balle, ni les péchés de la chair. Car le Christ baptise du Saint-Esprit et de feu, il a son vin dans sa main, et il nettoiera entièrement son air, et amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la balle dans un feu inextinguible. Ainsi la balle et la corruption doivent être purgées et brûlées dans un feu inextinguible, et non réconciliées avec Dieu. Et l'apôtre dit, « Vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main d'homme, en dépouillant le corps des péchés de la chair, par la circoncision spirituelle du Christ. Ainsi, vous pouvez voir que ce corps des péchés de la chair n'est pas à réconcilier, mais à dépouiller. Et Dieu, par le Christ, réconcilie avec lui-même toutes choses dans les cieux et les choses sur la terre, lui qui écrase la tête du serpent et met à mort l'inimitié, et détruit le diable et ses œuvres, et met fin au péché, et ainsi par la mort détruit la mort, et le diable, la puissance de la mort, comme il a été dit auparavant. Et ainsi il est clair que le Christ ne réconcilie ni le serpent, ni Satan, ni le diable, ni aucune de leurs œuvres, mais les détruit, et met à mort l'inimitié, et pourtant Dieu par le Christ réconcilie toutes choses avec lui-même, par lui dis-je qu'elle soit sur la terre ou dans les cieux. Colossiens 1:20. Ici, vous pouvez voir comment le Fils de perdition trahit le Christ auprès des principaux sacrificateurs au dehors, et comment le Fils de perdition, depuis l'ascension du Christ, entre dans le temple et trahit le Christ au-dedans, là où le Christ et sa vérité devraient être. Le diable, qui ne demeura pas dans la vérité, tenta Adam et Ève de désobéir à Dieu et d'entrer dans une fausse liberté, hors de la vérité, en mangeant de ce que Dieu avait interdit. Par là, ils perdirent l'image de Dieu et furent chassés du paradis de Dieu, où se trouvait la vraie et bienheureuse liberté, et où toutes choses leur étaient bénies. Et lorsque les gens commencèrent à se multiplier sur la terre, dans l'ancien monde, ils se jetèrent dans la méchanceté et la fausse liberté et corrompirent la terre. C'est pourquoi Dieu n'épargna pas l'ancien monde, mais fit venir ses jugements sur eux et sauva Noé et sa famille, un prédicateur de justice. Mais l'ancien monde impie ne tint aucun compte de la justice qu'il leur prêchait, et continua dans sa liberté relâchée et fausse, jusqu'à ce que Dieu fit venir le déluge sur l'ancien monde impie et les détruisit. De même, le Seigneur réduisit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, qui s'étaient jetées dans la méchanceté et la fausse liberté. C'est pourquoi Dieu les condamna par une destruction, les faisant servir d'exemple à tous ceux qui, plus tard, vivraient dans l'impiété. Et Abraham pria Dieu de ne pas détruire les villes de Sodome et Gomorre, et le Seigneur dit que s'il ne trouvait que 10 justes dans la ville, il ne la détruirait pas à cause des 10. Mais le Seigneur délivra le juste Lot d'entre eux, lui qui était tourmenté par la conduite infâme de ces gens méchants. Car ce juste homme, Lot habitant au milieu d'eux, en voyant et en entendant, tourmentait jour après jour son âme juste à cause de leurs œuvres illégales. Ainsi vous pouvez voir ici que ces habitants des villes de Sodome et Gomorre avaient une conduite infâme et méchante, et leurs œuvres étaient illégales, de telles œuvres et une telle liberté, le Seigneur et sa loi ne les permettaient pas, et ainsi ils étaient dans une fausse liberté. Et c'est pourquoi tous doivent prendre garde à cette fausse liberté, qui est hors de la justice et de la loi de Dieu, car s'ils ne le font pas, ils tomberont sûrement sous le jugement et la condamnation. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qui n'ont pas gardé leur premier état, mais ont quitté leur demeure, il les a précipités en enfer, et les a réservés dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. C'est pourquoi tous doivent prendre soin de garder leur demeure dans la vérité et la justice, et là où il y a justice, il y a paix, car vous lisez qu'au jour des apôtres beaucoup, dans une profession extérieure, abandonnèrent la droite voie et s'égarèrent suivant la voie de Balaam, et aussi ceux qui marchèrent dans la voie de Corée, d'Asen et Abiram. Or Caïn et Balaam avaient entendu la voix de Dieu, et Corée et sa compagnie, le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte par son bras puissant et sa puissance, et pourtant ceux-ci pouvaient proférer de grands discours enflés de vanité, mais ils étaient hors du chemin de la lumière et de la vie, et des fauteurs de troubles parmi les enfants du Seigneur en tous âges, ceux qui marchaient dans le chemin de Caïn, de Corée et de Balaam. Et ce sont des puits sans eau, et des nuées emportées par la tempête, auxquelles l'obscurité ténébreuse est réservée pour toujours, et ce sont des arbres dont le fruit se flétrit, et sans fruit, deux fois morts à déraciner. Ils étaient morts en Adam, puis vivifiés et rendus vivants, puis morts de nouveau et déracinés. Alors ils n'étaient plus susceptibles de croître dans le vrai terrain, mais il leur arrive selon le vrai proverbe, « Le chien est retourné à son propre vomi, ce qu'il avait vomi une fois, il le reprend, et la truie qui a été lavée retourne se vautrer dans le bourbier. » Ainsi il semble qu'elle avait été lavée une fois, et ce sont ceux qui se promettent la liberté, tout en étant les esclaves de la corruption, et quiconque est vaincu par eux est réduit en esclavage. Ainsi la fin de tous ceux qui marchent dans ces sentiers est pire que le commencement. Et ce sont les vagues furieuses de la mer, écumant leur propre honte, montrant qu'ils sont allés dans le monde, la mer, des étoiles errantes, auxquelles est réservée la noirceur des ténèbres pour toujours. Et c'était de faux docteurs, et beaucoup suivraient leur voie pernicieuse, à cause desquelles la voie de la vérité sera, et est diffamée. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, sensuels, n'ayant pas l'esprit. C'est une séparation d'avec l'esprit de Dieu, et donc d'avec la communion des fils et des filles de Dieu dans l'esprit. Ainsi ils ne peuvent être des étoiles fixes dans le firmament de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu doivent s'édifier eux-mêmes dans la très sainte foi dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur, et demeurer dans l'amour de Dieu, qui édifie le corps du Christ. Et vous avez entendu comment le Seigneur a sauvé son peuple du pays d'Égypte, puis ensuite a détruit ce qui n'avait pas cru, ni reçu la vérité dans l'amour qu'il lui devait, ni marché dans sa loi, mais s'était rebellé contre son esprit, qu'il leur avait donné pour les instruire, et ainsi, se rebellant contre ce qui les aurait gardés dans la communion et dans l'unité de l'esprit, le lien de la paix, Dieu détruisit beaucoup de milliers d'entre eux dans le désert. Maintenant prenez garde, vous tous que Dieu a fait sortir par sa grande puissance de Sodome spirituelle, d'Égypte et de Babylone, de peur que vous n'abandonniez sa puissance et le Christ, la voie droite de la vie, et n'alliez dans la voie de Carin, de Corée, de Dassen et d'Abiram et de Balaam, et comme Sodome et Gomorrhe et l'Ancien Monde, ne deveniez comme les vagues furieuses de la mer, et comme la truie retournant à la boue, et comme le chien retournant à l'ancien vomi, et ainsi des puits sans eau, des nuées sans pluie, des arbres sans fruits. L'apôtre dit, « Il faut que l'apostasie arrive d'abord avant que soit révélé l'homme du péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, lui qui est assis dans le temple de Dieu. Mais ce méchant sera révélé, et le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche, et le détruira par l'éclat de sa venue. Et la venue du Fils de perdition est selon l'action de Satan, dans l'inimitié avec toute puissance, et avec toutes les séductions de l'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissante illusion afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous soient condamnés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens 2:12. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes dans le Seigneur Jésus-Christ, et soyez affermis en lui en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Et maintenant, mes amis, vous pouvez voir ici que ce mystère d'iniquité commença à agir du temps des apôtres, après l'ascension du Christ, et après que l'Évangile eut été prêché aux nations. Et vous pouvez voir comment les apôtres et l'Église du Christ furent troublés par ceux qui suivaient la voie de Caïn, de Corée et de Balaam, et celle de Jézabel et des Nicolaïtes, et par ceux qui disaient qu'il était juif et ne l'était pas mais mentaient, comme beaucoup disent aujourd'hui qu'ils sont chrétiens et juifs intérieurs, mais ne marchent pas en Christ. Or, il y a eu une nuit d'apostasie depuis les jours des apôtres, et maintenant l'Évangile éternel est de nouveau prêché, celui qui fut prêché à Adam disant, « La postérité de la femme écrasera la tête du serpent », et à Abraham disant, « En ta postérité seront bénies toutes les nations et toutes les familles de la terre, de sorte que beaucoup sont rassemblés en Christ, la postérité tant les hommes que les femmes dans son gouvernement, dont l'accroissement et la paix n'auront pas de fin. » Et maintenant ce mystère d'iniquité, vous savez comment il a agi, et qu'il y a eu une apostasie, et que beaucoup se sont engagés dans la voie de Caïn, de Corée et de Balaam, et celle de Jézabel et des Nicolaïtes, et ont été, et sont des fauteurs de troubles pour l'Église du Christ. Et le Fils de perdition, cet homme de péché, est révélé, lui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et est assis dans le temple de Dieu, et ceux qui ne reçoivent pas la vérité dans l'amour qu'ils lui doivent, mais croient au mensonge, sont séduits par lui pour leur destruction. Vous lisez comment le Judas extérieur, ou fils de perdition, trahit le Christ au dehors, mais celui-ci fut et est un fils de perdition intérieur qui trahit le Christ au dedans, qui est assis dans le temple de Dieu et s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, comme il a été dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté au dedans, et Dieu le leur a montré. Ainsi le fils de perdition, l'homme du péché, le méchant, et le mystère d'iniquité dont l'action est selon Satan, avec toutes les séductions chez ceux qui périssent, entre dans le temple de Dieu et s'y assiedent, là où la lumière, la grâce, la vérité et la parole de Dieu devraient être, ainsi que le Saint-Esprit, car les corps des saints sont les temples du Saint-Esprit et de Dieu et du Christ, qui demeurent en eux et marchent en eux. Mais il y a d'abord une apostasie de la vérité, avant que l'homme du péché et le fils de perdition soient révélés, alors son opposition se voit, et alors il séduit selon l'action de Satan, ceux qui ne reçoivent pas la vérité dans l'amour qu'ils lui doivent, car Judas, le fils de perdition qui trahit le Christ, était compté parmi les apôtres et avait obtenu une part de leur ministère, duquel il est tombé par transgression, et c'est pourquoi l'apôtre a dit, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, que sa demeure devienne déserte. Ainsi vous pouvez voir ici qu'aucun homme ne doit habiter la demeure de Judas, qui est tombé de la vérité, ainsi que de cette part du ministère qu'il avait. Ainsi il y a d'abord une apostasie, avant que l'homme du péché, le fils de perdition, soit révélé, et beaucoup peuvent aller aussi loin que Judas extérieur, le fils de perdition jusqu'à devenir participant du véritable ministère, puis se détourner de sa vie et de sa puissance, et devenir des fils de perdition, des opposants, des traîtres et des séducteurs de ceux qui croient au mensonge et ne reçoivent pas la vérité dans l'amour qu'ils lui doivent. Mais que tous les hommes se gardent de sa demeure, car le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et le détruira par l'éclat de sa venue. Et vous qui êtes demeurés fermes dans le Seigneur Jésus-Christ et son gouvernement, vous avez senti quel ouvrage cet homme du péché, le fils de perdition, a fait dans son opposition et ses oppositions? Oui, avec toute sa puissance pour trahir ceux qui marchent et vivent en Christ par leurs paroles, leurs livres, leur conduite et leurs actions. Mais il ne prospérera pas, car le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et le détruira par l'éclat de sa venue. Alléluia! C'est pourquoi tous partout, qui avaient reçu l'Évangile et la postérité en qui toutes les nations sont bénies, demeurez dans cette postérité, hommes et femmes, qui êtes tous un en lui, et vivez dans le gouvernement saint et paisible du Christ, dont l'accroissement et la paix n'auront pas de fin. Et dans ce gouvernement, ni Caïn, ni Coré, ni Dassen, ni Abiram, avec leur feu étranger, ni Balaam, ni le fils de perdition ne peuvent entrer. Tous ceux-là sont au dehors, bien qu'ils troublent l'Église du Christ pour un temps, le Christ les troublera au jour de leur consommation et de leur destruction. Ainsi marchez tous en Christ Jésus, qui était avant qu'il ne soit, et qui sera quand ils auront disparu. Et en Christ il n'y a pas de division, mais la paix, car il n'est pas divisé, et qu'en lui, Dieu Tout-Puissant préserve tout son peuple. Amen. Un post-scriptum concernant la prière ici, vous pouvez voir un témoignage scripturaire de l'apôtre du Christ aux chrétiens et à l'Église du Christ, sur comment et avec quoi ils devaient prier, et en quoi, et que les apôtres ne leur faisaient pas des prières, ni ne leur donnaient des livres et d'autres choses pour prier. L'apôtre écrit à l'Église du Christ, aux Éphésiens 6:18-19, et les exhorte, disant « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de la parole quand j'ouvrirai la bouche, pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. » Remarquez, leurs prières, leurs supplications et leurs veilles devaient être dans l'Esprit, tant pour eux-mêmes que pour les saints et pour les apôtres. Et l'apôtre ne leur donne pas un livre pour prier, et ne dit pas « prier avec le livre », mais par l'Esprit, oui, l'apôtre dit qu'il devait toujours prier dans l'Esprit. Et l'apôtre dit à l'Église du Christ, aux Corinthiens, 1 Cor 14:15 « Je prierai par l'Esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. » Et encore l'apôtre dit aux Colossiens qu'il priait toujours pour eux. Ainsi vous pouvez voir que l'apôtre ne dit pas qu'il priait avec un livre, mais il priait par l'Esprit, et le peuple ne peut pas toujours avoir le livre pour prier, mais l'Esprit, ils peuvent l'avoir en eux, par lequel ils peuvent prier toujours. Et l'apôtre dit aux Romains de l'Église du Christ, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Romains 8:26-27. Or ici, vous pouvez voir que l'apôtre ne dit pas que ce sont des formes extérieures, ou des livres de prière, qui aident leur faiblesse, ni qu'il les renvoie aux livres de prière pour aider leur faiblesse ou intercéder pour eux. Mais il leur dit clairement que l'Esprit aide leur faiblesse et intercède pour eux selon la volonté de Dieu, qui connaît la pensée de l'Esprit. Car l'Esprit qu'il répand sur eux, les gens l'ont toujours avec eux, mais le livre, ils ne l'ont pas toujours avec eux, mais l'Esprit, ils l'ont toujours avec eux sur mer et sur terre, nuit et jour. Et l'apôtre Jude, dans son épître générale à l'Église du Christ, les exhorte en disant « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Jude 1:20. Or ici vous pouvez voir en quoi l'Église du Christ devait s'édifier et en quoi elle devait prier, à savoir dans la très sainte foi et prier dans le Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'il devait prier dans des livres, et nous ne lisons pas non plus qu'il leur ait fait des livres pour prier avec ou dans, mais l'apôtre dit à l'Église du Christ que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leurs convoitises impies, et c'était ceux qui se séparent eux-mêmes sensuels n'ayant pas l'Esprit, qui s'en étaient égarés et s'en étaient détournés. Alors cela n'était pas susceptible de prier dans l'Esprit et dans le Saint-Esprit, comme les vrais chrétiens l'étaient et le sont. Le Christ a dit « Veillez donc et priez toujours » Luc 21:36, et dans Luc 18:1, il est dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser, et cela doit nécessairement se faire par l'Esprit qui intercède. Et l'apôtre dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Phil 4:6. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains saintes, sans colère ni doute, et que des prières, des supplications, des intercessions et des actions de grâce soient faites pour tous les hommes. N'est-ce pas dans le Saint-Esprit, avec des mains saintes levées, 1 Tim 2:1-8, et les anges offrirent les prières des saints sur l'autel d'or qui était devant le trône de Dieu, et les prières des saints montèrent devant Dieu de la main des anges, Apoc 8:3-4. Et pensez-vous que ces prières de tous les saints étaient des livres de prières extérieures faits pour eux, ou étaient-ce des prières par et dans l'Esprit, qu'ils offraient à Dieu? George Fox, livre de Doctrine 6, suite retour à l'index de la doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.